C'est maintenant le temps de la prédication. Et je veux vous inviter à préparer vos Bibles dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et avant de lire la parole de Dieu, je voudrais prier pour demander à Dieu d'éclairer notre intelligence. Seigneur, je prêche avec mon cœur, avec ma tête, mais toutes ces choses, je te les remets à toi, afin que tu les conduises et qu'elles ne me fassent pas défaut, parce que ton esprit les supporte. Je te remets, Seigneur, toute notre vie d'église, d'assemblée, afin que ta parole y soit présente et féconde et vivante. Veuille nous bénir maintenant. Amen. Donc, on avait vu avec Jacqueline, qui n'est pas là, et toute son équipe qui a organisé le culte de l'église persécutée de dimanche dernier, que nous allions prolonger ce moment-là. C'est vrai que dimanche dernier, il n'y a pas vraiment eu de prédication ou d'enseignement à proprement parler. Et donc, ils m'ont demandé si je voulais bien prêcher sur le thème de l'église persécutée ce dimanche, avec ces quelques versets. Donc, vous pouvez trouver dans vos Bibles... Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, 2 Corinthiens, chapter 4, we'll read the verse 5 to 10. Donc 2 Corinthiens 4, les versets 5 à 10. C'est pour Shrek qui est iranienne et qui ne comprend pas toujours bien le français, donc précise en anglais. Paul écrit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Elle a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mais nous, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc le passage précis que Portes Ouvertes nous avait proposé de prêcher, c'était ces versets-là. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Voilà. Ces versets-là... 8 et 9. Et j'ai voulu lire un peu avant et un peu après pour qu'on ait un peu plus de matière et de cohérence pour ce texte-là. Alors, dans cette lettre de Paul, la deuxième de Paul aux Corinthiens, l'apôtre parle vraiment d'une persécution qu'ils ont connue et apparemment elle était particulièrement violente. Au tout premier chapitre, il dit ceci. Nous ne voulons pas que vous laissiez ignorer, frères et sœurs, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avons accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et c'est lui qui nous a délivrés. Donc vraiment une situation de, je ne sais pas, certainement de violence, à tel point que, bon, bah, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas, mais ça ne fait pas de Dieu quelqu'un de mauvais. Je pense à ses amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, je ne me souviens jamais de leur prénom hébreu, qui étaient face à la fournaise, le roi qui dit « Soumettez-vous à moi, car j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur vous. » Et les amis de Daniel qui disent « Non, non, en fait, c'est nous, nous craignons l'Éternel, et l'Éternel a le pouvoir de nous délivrer de ta main, et puis s'il ne le fait pas, eh ben, il est quand même l'Éternel Dieu. » Voilà. Donc ils étaient prêts. Et là aussi, l'apôtre Paul nous montre qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour la cause et pour le service du Seigneur, et que dans les circonstances où il était, ils étaient en paix. Et donc, quand il nous parle de souffrance, on est encouragé à croire que Paul sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Alors, pour moi, se posent deux grandes questions. La première grande question, c'est: mais pourquoi, Paul, acceptes-tu, persévères-tu à t'exposer à la souffrance? Je ne dis pas que tu la cherches. Je dis pourquoi tu acceptes de t'y exposer? Pourquoi? Et la deuxième question, comment fais-tu pour tenir bon? Comment fais-tu pour tenir bon? Ok? Et avant de répondre à ces questions, j'aimerais poser en préambule quelque chose. C'est très simple, mais récemment, un psychologue que j'écoute pas mal, qui s'est converti à la foi chrétienne, qui m'inspire pas mal dans mes réflexions du moment, m'a conduit à repenser certaines choses. Avec les cathés, j'en vois pas beaucoup. Ah si, il y a Gaspard qui est là. Il doit y avoir Maïlis quelque part, non? Avec les cathés, on est en plein dans la Genèse, là. Et en fait, vous connaissez l'histoire de la Genèse, où Dieu crée un jardin merveilleux pour y mettre l'homme et la femme. Et cet arbre qu'on aurait préféré qu'il n'existe pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre qui était la liberté, la responsabilité. L'homme n'était pas obligé de régner au nom de Dieu, il pouvait régner autrement. Et ce autrement, donc, était rendu possible par la présence de cet arbre, et l'homme allait connaître le bien et le mal. Et vous connaissez l'histoire, Adam et Ève ont été séduits, et ils ont saisi ce fruit, et en ont mangé. Et depuis ce jour-là, il n'existe plus un seul être humain qui échappe à la souffrance, qui échappe à la malveillance, à la méchanceté. Aucun d'entre vous n'y échappe. Tous, vous connaissez dans votre vie des drames. Et si pas dans votre vie directement, dans la vie de quelqu'un qui vous est cher. Quand je dis des drames, ça peut être des personnes qui subissent justement cette malveillance de manière dramatique. Ça peut être ce péché complètement aléatoire et injuste qui frappe, ces maladies, ces infirmités, des choses comme ça. Vous tous, vous connaissez la souffrance. Et ce que ce psychologue disait, c'était assez étrange à entendre et en même temps tellement évident. Il disait en fait, le monde, la vie est remplie de souffrance et de malveillance. La vie est remplie de souffrance et de malveillance. Si vous allez bien, si vous n'avez aucune épreuve dans votre vie, ce n'est pas la norme, c'est l'exception. Parce que le péché est là, parce que l'homme s'est révolté, parce qu'il ne cherche pas la crainte de Dieu, il ne cherche pas à régner au nom de Dieu, mais à régner pour lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a tant de malveillance dans ce monde. Alors pourquoi Paul, pourquoi t'exposes-tu ainsi à la souffrance ? Il nous dit ces choses-là. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ que nous prêchons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies à nous ? Ça veut dire que le Dieu que j'annonce, c'est pas celui... Non, je vais le dire autrement, pardon. Ce que j'annonce de mon Dieu n'est pas uniquement ce que j'arrive à faire. En gros, si Dieu me dit, voilà, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, et que ça, j'y arrive. Et que je me contente de prêcher aux autres ce que j'arrive. En gros, je leur dis, imitez-moi. Faites comme moi. Mais pourquoi tu fais comme ça ? Regarde ta vie. C'est un chantier parce que tu fais moi, regarde ma vie. Et au final, le modèle, c'est plus Christ, c'est moi. Mais est-ce que le Christ que vous annoncez, c'est un Christ qui vous défie vous-même ? C'est un Christ à la poursuite duquel vous êtes, mais un Christ que vous ne parvenez pas à imiter. Un Christ qui est plus grand que vous, qui est plus juste que vous, qui est plus miséricordieux que vous. Voyez ce que je veux dire ? Si une église se prêche elle-même, elle fait la promotion de ce qu'elle réussit à vivre. Elle s'encourage à continuer dans ce qu'elle arrive déjà à vivre. D'accord ? Elle devient un club. Et le but de cette église, du coup, c'est d'être bien entre soi. Et c'est cool. Mais ça ne bouge plus. Si l'église, elle prêche un Jésus qui est plus grand que elle, elle reconnaît qu'elle-même, qui annonce cette parole, elle est en chemin. Vous êtes d'accord ? Et elle annonce que s'il y a un salut, s'il y a une porte de sortie à ce monde noir, pourri, plein de souffrance et de malveillance, c'est pas l'église. Vous pouvez remplir la terre d'église et convertir toute l'humanité en chrétiens comme vous et moi, on n'aura pas réussi à régler les problèmes du monde. Parce que j'entends dire que parfois, même dans l'église, il y a des problèmes. Non, s'il y a une solution qui vient, s'il y a une porte de sortie à ce monde déchu, ce n'est pas l'Église, mais c'est le Seigneur que l'Église prêche. Ce n'est pas nous-mêmes. Et quand des personnes viennent à Christ, cherchent une solution pour leur vie, ce n'est pas l'Église la solution. Ce n'est pas de participer à l'Église la solution, mais c'est d'y rencontrer Jésus. C'est de rencontrer au sein de cette communauté Jésus. Et on en revient à ce que Paul est en train de dire. La connaissance de la gloire de Dieu a brillé sur le visage de Jésus, dit-il. C'est-à-dire que quand Jésus marchait et vivait sur la terre, si vous lisez les évangiles, il est en train d'être l'imitation parfaite de Dieu le Père, que personne ne peut voir, que personne ne connaît. Et donc, si je connais Jésus, si je regarde comment vit Jésus, je sais comment est Dieu le Père. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il imite parfaitement le Père. Donc je peux savoir qui est Dieu en regardant à Jésus-Christ. Mais le miracle qui s'est poursuivi, c'est que quand Jésus est remonté au ciel, cette gloire de Dieu, cette révélation de Dieu, ce dépôt, Christ l'a placé dans le cœur de ses apôtres. Et ses apôtres se sont mis à briller eux aussi de Jésus. Pas complètement parfaitement, pas complètement parfaitement, mais quand même, suffisamment pour que le flambeau passe de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Et aujourd'hui, si vous êtes des disciples de Jésus, c'est parce que des gens ont brillé de Christ sur vous. Et donc Paul parle de ce trésor qu'il porte en eux comme en des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à eux-mêmes. Alors pourquoi Paul s'expose à la souffrance? Si nous fuyons la souffrance, tous, plus personne n'osera briller de Jésus sur qui que ce soit. Parce que pour briller de Jésus sur quelqu'un, il faut que quelque part, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, soit motivé par la certitude que Jésus est ressuscité des morts. C'est pour ça qu'il dit, nous portons dans nos corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste dans nos corps. Je prends un exemple très concret, d'accord ? Ma sœur, ma grande sœur, Julie, qui va avoir 50 ans cette année, a une petite fille dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Émilie, qui est polyhandicapée. Elle a une énorme lésion cérébrale qui fait qu'elle ne sait toujours pas marcher. Elle a l'âge de Manoah. Elle est née 2 jours avant Manoah. Elle apprend des trucs très limités. Et donc, c'est une enfant qui sera à charge toute la vie. Est-ce qu'elle saura parler? Sans doute pas. Elle sait dire non comme ça. Voilà, ça veut dire non. Donc elle sait communiquer à sa manière, mais est-ce qu'elle saura marcher? On espère qu'elle saura marcher un jour. Pour quelle raison faire peser tout l'investissement auprès de cet enfant sur une famille tout entière, si après la tombe, il n'y a rien? Pour quelle raison prendre soin de personnes? D'où nous vient cette conscience de la dignité humaine, de la valeur de cette vie? Je ne dis pas qu'il n'y a que les chrétiens qui le font, loin de là, et grâce à Dieu, on n'est pas les seuls. Mais, vous voyez, il y a toujours ce choix entre le chemin facile et le chemin périlleux. Entre les choses pour maintenant et les choses... Quel bénéfice dans la vie de ma sœur, dans la vie de son époux, de ses enfants, quel bénéfice futur y aura-t-il de prendre soin d'Émilie comme ça? Quel bénéfice futur y aura-t-il pour Émilie qu'elle soit prise en charge avec toute l'attention qui est possible? Eh bien, la réalité, c'est que nous ne savons pas. C'est un peu un pari dans le futur. C'est poursuivre quelque chose d'invisible. Mais par cette vie-là, c'est comme si dans ce monde obscur, nous faisons apercevoir qu'il y a une espérance ailleurs. Les chrétiens qui ne réagissent pas comme tout le monde, qui ne parlent pas comme tout le monde, qui ne se comportent pas comme tout le monde, parce qu'ils ont l'espérance de Jésus en eux, sont des lumières d'espérance dans ce monde de ténèbres. Un auteur que j'aime bien, philosophe chrétien, qui expliquait que en fait, le monde, c'est comme une marmite sur le feu. Nous, on est là en train de bouillir dedans. Et le diable, il pèse de tout son poids pour refermer le couvercle sur cette marmite. Et les chrétiens, par leur attitude, par leur manière de penser, par leur manière d'agir et de parler, ils empêchent le couvercle d'être définitivement fermé sur ce monde. Par notre attitude, par la foi que nous avons dans la résurrection de Jésus, nous ne lui permettons pas de priver toute l'humanité d'espérance. Et nous manifestons qu'il y a une vraie espérance à venir. Et tant qu'il y a une espérance à venir, dans ce monde de souffrance et de malveillance, il y a des bonnes raisons de lutter, de ne pas se laisser corrompre. On vous fait du mal, eh bien, puisque c'est comme ça, moi aussi je vais faire du mal. Ça, c'est la corruption. On nous biberonne à la peur et à l'angoisse, et on veut nous conduire comme des veaux dans certaines directions. Je vais affronter mes peurs pour être capable de faire mes propres choix. Ça, c'est résister à la corruption. L'apôtre Paul dit que parce qu'ils ont ce trésor en eux, il dit, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Vos serviteurs. Ça veut dire qu'il considère que d'avoir reçu ce trésor en lui le rend redevable vis-à-vis des autres. Et qu'il travaille à ce que sa vie reflète le plus possible Jésus pour pouvoir communiquer cette espérance, cette consolation, ce salut à celles et ceux qui l'entourent. Et que la connaissance de Dieu par Jésus-Christ soit propagée. Et c'est pour ça que il accepte de s'exposer à la souffrance. Mais alors, deuxième question, le comment fait-il pour tenir? Alors, toujours dans le même passage, il faut lire la fin du chapitre 4. Donc je vous invite à relire en 2 Corinthiens 4, la fin du chapitre, au verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les choses invisibles sont éternelles. Voilà son truc. Son truc, c'est de penser éternité, de penser royaume.
Il y a eu une petite coupure dans l'enregistrement du message, donc je comble le trou. Donc là, je voulais vous donner un exemple assez concret de comment est-ce qu'on parvient à changer un peu cette façon de penser avec une chose qui nous arrive avec Camille dans notre vie. Donc en ce moment, avec William, on traverse un moment où C'est plutôt compliqué de réussir à le mettre au lit tranquillement. Et voilà, quelque part, on peut adopter le problème avec cette mentalité que voilà, un couchage d'enfant réussi, c'est un couchage qui se passe en 20 minutes et qui nous laisse largement le temps, ma femme et moi, de passer une bonne soirée.
Et tous les deux. Ça s'est réussi. Ah, on a du temps ensemble. Et souvent, pour vivre cet objectif-là, on s'est autorisé à forcer, à hausser le ton de la voix, à punir, à perdre patience. Et quand cet objectif-là n'est pas atteint, et quand on est à 10h, 10h30 encore en train de le coucher, on passe une très mauvaise soirée. Ou alors, ce qu'on a appris, ou réappris, peut-être, je sais pas. Ou alors, un couchage réussi, c'est un couchage où on est resté calme. C'est un couchage où on n'a pas eu de gestes brusques. C'est un couchage où on a pris le temps. Et c'est un couchage où on sort de la chambre en paix. Même si c'est à 10h30 du soir. Alors, je sais qu'on est très, très, très loin des persécutions de Paul, hein. Vraiment. Mais je vous assure que c'est la même mécanique au fond. Quel est le bénéfice de prendre cet autre chemin avec William? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer, en fait, quels fruits ça va porter dans la vie de William et dans la mienne et dans celle de Camille? Je ne sais pas. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le toucher. Mais on sait que c'est bon. Quel bénéfice si je réussis le couchage en 20 minutes? Je sais. Je peux faire ma soirée Netflix avec Camille. Donc d'un côté, je poursuis des objectifs visibles, immédiats et éphémères. D'un autre côté, je poursuis des objectifs invisibles qui auront des répercussions sur le temps long et dans lesquels Camille et moi, on essaye déjà de vivre maintenant comme si le royaume était là. Avec tous nos échecs et toutes nos foirades et tous ces moments où j'essaye d'être patient et puis j'y arrive pas. Et je dis, bon, Camille, tu prends le relais parce que là, je vais péter un câble. Et c'est ça. Et en fait, l'apôtre Paul, il dit ça. Je garde les yeux fixés sur les choses éternelles et invisibles et non sur les choses passagères, temporaires et visibles. J'ancre la motivation de ma vie dans quelque chose de plus grand que maintenant. Oui, mais comment est-ce que je sais que ça va marcher? Par la foi. Par la foi. Par la foi, je crois que mentir n'apporte jamais de bienfaits à long terme. Oui. Bien sûr, s'il y avait des nazis qui étaient venus frapper à ma porte et que j'avais des juifs qui étaient dans la cave, j'aurais menti. Je ne parle pas de ça. Je parle de tous ces moments où on s'esquive de nous-mêmes. Oui, je le crois par la foi. Je ne sais pas, je suis incapable de vous dire au moment où vous êtes dans cette situation pétrie de malaise et avec cette envie de déguiser habilement la vérité, histoire de. Je ne peux pas vous dire quels sont les bénéfices qui vont sortir de ça, mais je les crois. Parce que le royaume, c'est un lieu qui sera construit où on ne vivra que comme ça. Donc si ça sera bon pour le royaume de Dieu qui va être éternel, je dois croire que maintenant dans ma vie, si j'applique ces principes-là, ça va porter du bon fruit, même si je ne suis pas capable de vous dire exactement pourquoi. Et non seulement ça va apporter du bon fruit pour moi, mais si je porte du bon fruit pour moi, ça va être bon pour ceux qui m'entourent. Parce qu'il n'y a pas de moment où je pêche pour moi tout seul et que ça n'a pas des conséquences sur mes relations avec les autres. Il n'y a pas de moment où je suis sanctifié moi tout seul et puis ça n'a pas de conséquences sur mes relations avec les autres. Et toujours, lorsque je suis transformé dans un côté ou dans l'autre, tout le monde en pâtit ou tout le monde en bénéficie. Mais il n'y a pas d'individualisme comme on voudrait nous le faire croire. Donc ce monde est un monde pavé de malveillance et de souffrance. Nous n'y échapperons pas. Nous n'y échapperons pas. Nous n'y échapperons pas. Et vous avez tous expérimenté, vous savez tous dans votre cœur que lorsqu'on est confronté à la malveillance et à la souffrance, les réflexes qui nous viennent sont rarement les bons. La fuite, l'esquive, l'agression, la vengeance, le donnant-donnant, la perte de confiance, tous ces fruits-là, en fait, font absolument du bien à personne, n'aident pas à construire le monde. Mais nous, nous portons Christ en nous. Nous portons l'incarnation parfaite de ce qu'est censé être un humain lorsqu'il vit en communion parfaite avec Dieu. Une source qui est en vous et à laquelle vous êtes appelé à vous abreuver, à revenir sans cesse pour comprendre, pour retrouver, pour apprendre ce chemin ici-bas et être, comme le dit Jésus, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. On la met sur un chandelier et elle brille pour que tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est ça notre mission, être lumière du monde, celle de la terre. C'est ça le sens de notre vie. C'est ça le sens de notre vie. Je vous ai raconté le couchage de William. Pourquoi? Parce que ce genre de choix de positionnement intérieur où on se connecte à Jésus, où on choisit le chemin, les Anglais disent « the higher path », le chemin le plus élevé, nous on dit « le chemin étroit ». Se connecte à Jésus pour choisir le chemin étroit, ça s'apprend dans le petit quotidien. Ça s'apprend dans le petit quotidien d'abord. Je ne saurais plus citer le nombre d'endroits où il est écrit « soyez fidèles en peu de choses et vous serez établis sur beaucoup en fait ». Commençons par refléter le Christ dans le petit quotidien. Dans le petit quotidien. Parce que c'est dans le petit quotidien que se forge le plus notre conception du monde. Notre conception du monde. Et le chemin le plus élevé, vous le connaissez. C'est le serment sur la montagne, c'est les béatitudes, c'est le fruit de l'esprit, c'est cette poutre que j'ai dans mon œil, c'est ce mille de plus à faire, c'est ce pardon qui est arrivé un petit peu en retard, cette bienveillance, cette minute de patience de plus qu'on n'a pas accordée, cette nouvelle chance qu'on n'a pas offerte à quelqu'un qui nous a encore déçus. Cette attention qu'on n'a pas prêtée aux gens qui étaient autour de nous. Et vous savez quoi? Ce dépôt qui vous a été donné, que vous avez en vous, avec l'Esprit Saint de Dieu, ne vous sera jamais retiré. Même en imaginant que vous n'en fassiez vraiment pas grand-chose jusqu'à votre mort, ce dont je doute fortement, il ne vous serait pas repris. Chaque jour qui s'offre à vous est un jour de grâce pour cheminer à nouveau derrière le Seigneur, et il ne se désespérera pas de vous. Jamais. Il persévérera toujours et il ne vous abandonnera jamais. Donc envisagez ce vaste chantier devant vous, ce vaste chantier de la vie. Peut-être vous l'avez déjà envisagé, je ne fais que enfoncer une porte ouverte, en tout cas je l'espère. Mais ce monde est un monde de malveillance. Quel que soit le camp dans lequel vous êtes, dans ceux qui sont en train de traverser une épreuve, vous avez besoin de marcher sur le sentier étroit pour ne pas vous laisser corrompre. Que vous soyez du côté de ceux qui connaissent ceux qui traversent l'épreuve. Ils ont besoin de vous, de votre lumière, que autour de eux, vous vous comportiez avec cette flamme du Christ au fond de vous, qui les inspire, qui les porte, qui les garde, qui les illumine, qui les éclaire. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.